France Inter.
La proximité sociale fait que parfois les agresseurs sont très bien insérés socialement, ce qui rend plus difficile le fait de dénoncer les violences. C'est difficile d'aller à la gendarmerie quand on sait que notre mari joue au foot avec les gendarmes tous les week-ends, par exemple.
À la campagne, tout le monde se connaît plus ou moins. Mais qui sait vraiment ce qui se passe derrière les murs des maisons quand les portes se referment ? Parfois, les champs s'étendent à perte de vue autour d'une habitation. Et quand les voisins sont plus rares, quand les amis sont plus éloignés, les violences conjugales deviennent plus invisibles qu'à la ville. Elles sont davantage dissimulées, étouffées. À la campagne, les victimes sont doublement piégées sous l'emprise d'un mari maltraitant. C'est une double peine, car elles sont encore plus isolées. Les chiffres d'un récent rapport sénatorial parlent d'eux-mêmes. En France, seul un tiers de la population vit en zone rurale, mais près de la moitié des féminicides y sont perpétrés. À la campagne, les femmes sont plus dépendantes économiquement. Et elles sont fragilisées dans des déserts médicaux, avec moins de services publics et donc moins d'oreilles neutres à qui se confier. Et il y a cette peur, souvent, du qu'en dira-t-on. Mais il y a aussi des mains tendues et des victimes qui s'échappent.
Et au moment où je suis partie, c'était le grand soulagement. Cette ancienne voisine qui m'a un peu forcé la main pour que j'aille porter plainte, pour que j'aille dans cette association, c'est un peu grâce à elle que j'en suis là, en fait. C'est le début de mon parcours, c'est le début de la fin des violences.
Plusieurs femmes qui ont réussi à sortir de l'enfer de la violence rurale témoignent dans ce reportage. Vous entendrez aussi celles et ceux qui se mobilisent pour les aider et la parole des forces de l'ordre et d'une élue engagée. Violence conjugale, les entendez-vous dans nos campagnes ? C'est un reportage signé Ariane Grissel qui nous emmène d'abord en Ardèche.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
Bonjour, je n'étais pas sûre d'être au bon endroit. Ariane, enchantée.
Enchantée.
Voilà, un petit peu. Ça va, maman ?
Oui, ça va. Ah, ça va, c'est bon. C'est Émilie et j'ai 36 ans.
Votre compagnon, votre ex-compagnon, tout d'abord, comment est-ce que vous le rencontrez ? Comment ça démarre ?
Mon adolescence, d'ami en ami, on a fait cette rencontre-là et on a passé environ 17 ans de notre vie ensemble. De mes 15-16 ans à y encore 4 ans en arrière. Là où j'ai commencé à comprendre que ça devenait très difficile, c'est quand on a eu notre enfant. Où je commençais à avoir peur, il avait des réactions que je commençais vraiment à craindre. Et plusieurs fois, je suis partie avec mon petit dans les bras, dans la rue, à essayer de fuir, quoi. Mais finalement, une fois que je me retrouvais avec mon bébé dans la rue, c'était un petit village un peu isolé. Je me dis, qu'est-ce que je fais ? J'ai pas de voiture, j'ai juste mon téléphone. Je fais demi-tour et je rentre, et puis ça va se calmer, et puis on va en parler, et ça va se poser. Et la dépendance au niveau véhicule et financière, elle s'est vite créée parce que dans son fonctionnement de vie, lui, peu importe que l'un ou l'autre gagne, tout est divisé par deux. Quel que soit le salaire, il n'y avait pas de prorata du salaire. Donc en fait, tout mon peu de chômage que j'avais, je ne pouvais pas mettre ne serait-ce que 200 euros de côté pour, au bout de 6 mois, me dire « Allez, je vais trouver une petite voiture ». C'était pas possible. Tout mon argent partait dans le fonctionnement du foyer. Et lui, pendant ce temps, on pouvait mettre un peu tout de côté. Donc la voiture, c'était pas de finances pour pouvoir en acheter. Elle était nécessaire pour aller travailler. Quand il a fallu que je retrouve un emploi, parce que financièrement, on commençait, surtout quand j'ai eu mon petit, notre enfant, il fallait retrouver un salaire plus conséquent. Et il avait deux véhicules et j'utilisais un de ses véhicules. Mais c'était aussi pas la carotte, mais c'était Bah, si un matin, il ne voulait pas parce qu'il était en colère contre moi, il me prenait les clés et je ne pouvais pas aller bosser, quoi.
Géographiquement, vous vous situez, alors je vous demande pas de nom, hein, mais c'est quoi? C'est un village, c'est un hameau, c'est une maison isolée, il y a des bus qui passent, est-ce qu'il y a autre possibilité que la voiture?
Non, à cette époque-là, c'est un petit village perché, donc en hauteur, en altitude, sans bus, et mon lieu de travail, il n'y avait effectivement pas du tout de transport en commun ou de stop possible, quoi. Enfin, ça aurait été possible, mais après plusieurs minutes de marche avant de trouver quelqu'un pour faire du pouce et... Non, j'avais pas d'autre solution, il fallait vraiment être véhiculé à ce moment-là. Ouais. Et puis, on a essayé de rebondir, c'est là qu'on a acheté une maison, et là, il y a eu le confinement. Et au bout de quelques semaines de confinement, une personne qui m'est proche, un élu de ma commune qui m'est proche, m'a vu dégringoler physiquement, fragile, faible, quoi. Moi qui ai toujours été un peu ronde, là c'était plus le cas du tout. Et là, cette personne s'est vraiment inquiétée, a tenté de me, par message, de me poser quelques questions. Mais encore une fois, j'étais dans ce. Plus le déni, mais dans ce truc de le protéger lui encore et de lui trouver des excuses, quoi. Et cette personne-là m'a un jour appelée en simulant un rendez-vous important. Du fait que ce soit un élu, c'était le seul moment où j'avais été un peu autorisée à sortir, parce que faire les courses pendant le confinement, il refusait que j'y aille toute seule. Et donc je me retrouve dans j'arrive auprès du rendez-vous, et en fait, cette personne avait appelé les gendarmes et m'a expliqué, voilà, en fait, j'ai compris qu'il y avait un truc qui n'allait pas à la maison. Je pense que j'ai bien saisi d'où le problème venait, et là, je t'offre la possibilité de parler. Est-ce que tu acceptes? Et m'a complètement déstabilisée. Et puis en fait, là, j'avais plus de force, quoi. J'avais plus la possibilité de me relever. Je voyais plus d'issue. J'ai eu peur pendant ce confinement de me dire, je vais me prendre un coup de pelle et je vais finir enterrée dans le jardin et mon fils, il va devenir quoi. C'était un peu le. Cette personne, elle aurait pas fait ça. Je sais pas où je serais aujourd'hui, en vrai. Mais même si c'est pas lui qui aurait commis un acte. Irréparable, mais peut-être que moi j'aurais pas tenu bon plus longtemps en fait. Et je me suis retrouvée face à une gendarme qui a été topissime. Donc je me suis organisée et j'ai réussi à partir le jeudi avec mon enfant, quelques affaires avec les gendarmes en son absence, un temps d'absence où je lui ai demandé d'aller faire 3 courses hyper urgentes et j'ai fort insisté pour qu'il y aille. Et il a fini par y aller, et là j'ai réussi à partir de mon domicile à ce moment-là, et j'ai été hébergée par une asso qui accompagne les femmes victimes de violences dans notre secteur. Et je voulais vraiment qu'ils rencontrent un psychiatre. Donc ils étaient engagés à le faire, ce qui a précipité mon retour. J'ai accepté de rentrer, et sur cet instant-là, je me suis dit c'est la plus grosse erreur de ta vie, t'as réussi à partir, t'y retournes et t'as pas envie en fait. Violences sont revenues, verbales surtout, après des attitudes physiquement aussi. Hein, c'est pas des coups de poing, hein, c'est des chassés dans les tibias, c'est le coup de poil dans les mollets, c'est tirer l'écharpe pour faire semblant d'étrangler, c'est... Je vais dire, c'est pas grave. C'est pas des coups de poing qui marquent, en fait.
Et puis finalement, vous arrivez à partir définitivement. Quand est-ce que c'était et comment ça s'est passé?
Eh ben, en juillet, je lui ai dit que c'était fini, que je cherchais un appartement. J'ai trouvé un logement en décembre de la même année. Et il se trouve que j'ai emménagé 4 ans jour pour jour de notre entretien d'aujourd'hui. Je me suis tatoué cette date sur la main, ouais. La date de ma liberté. Il y a 4 ans. 4 ans aujourd'hui.
Aujourd'hui, Émilie a déménagé, son fils et elle ont retrouvé un cadre de vie serein. Elle dit que c'est surtout grâce à ces personnes qui l'ont aidée sur le plan psychologique et matériel. Pour d'autres, c'est le début du chemin. On a rendez-vous avec une femme qui a quitté son conjoint violent il y a quelques mois seulement.
Bonjour. Eh oui, parce que je cherchais le numéro plus loin. Bon, merci beaucoup.
On va se mettre ici.
Oui, dites-moi, je vous suis.
Si vous voulez, je vais vous donner tout ça. Alors, je m'appelle Rose. J'ai 63 ans. Notre histoire, elle a démarré, comme pour beaucoup, dans un dancing, quoi. On s'est fréquenté quand même 2 ans, et après, ça a abouti sur une installation sans quoi, dans le village où il était, où étaient ses parents, voilà.
Et on est en quelle année, là, à peu près, dans vos souvenirs ?
En juillet 1984.
À ce moment-là, quand vous emménagez ensemble, comment ça se passe ?
C'est un village où il connaît tout le monde, où moi, il faut que je m'intègre. Et en plus, il fait partie des sapeurs-pompiers du village, donc il n'y avait rien pour les compagnes ou les femmes à cette époque. C'est assez difficile.
À ce moment-là, vous avez quel âge ?
J'ai 23 ans et on a resté 3 ans et demi au village. Et ensuite, il a décidé d'acheter une maison sans m'en parler. J'ai finalement accepté parce que la maison, elle avait une très jolie vue, mais c'était quand même isolé dans un hameau. Il voulait que je fasse de l'agriculture avec lui et on faisait beaucoup des heures, on sortait pas beaucoup. C'est-à-dire qu'en 2017, j'ai eu un cancer. Donc, je me suis débrouillée. Parce qu'il fallait l'aider, mais moi, ça le fatiguait, ça le contrariait. Il n'avait pas le temps. Pour moi. En 2017, j'ai arrêté de conduire parce que j'avais des gros problèmes au niveau de la tête. Je ne pouvais pas tourner la tête. En plus, c'est toujours lui qui prenait le volant. Donc, il m'avait un peu fait perdre confiance en moi au lieu de me dire « je vais t'aider ». Non. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Petit à petit, il est devenu bizarre. Il m'empêchait de dormir. Il me tyrannisait et... Quand je me levais le matin, il me disait « Va te coucher, retourne dans tes casseroles. » Et il frappait, je vous dis, sur les choses, il me montrait le poing. Une fois, il m'a attrapé à la gorge.
Vous aviez des voisins à ce moment-là ?
Le problème, c'est que j'avais des petits voisins et que le petit jeune qui était à côté, il n'était pas simple avec sa femme. Elle était sans travail, sans voiture, elle aussi. Il fallait rester à la maison et faire nos affaires et c'est tout. Voilà. Je voulais que ça s'arrête. Donc j'ai fait venir les gendarmes fin août 2024. Je me suis dit, ils vont le raisonner un peu parce qu'il était dans un état... Ils m'ont dit, il faut porter plainte, madame, et tout. Et puis ils m'ont dit, attendez, on va aller le voir. Quand ils sont revenus, ils m'ont dit non, il faut voir avec une assistante sociale, madame, parce que ça serait mieux, quoi. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise ? J'ai rien dit. Je leur ai simplement dit, je vais passer à l'acte. Une tentative de suicide. Parce que ça faisait vraiment trop. Il était exécrable. J'avais eu aussi, pour le 15 août, 42 fièvres. Donc je suis restée 4 jours alitée, sans manger. Le lundi... Je me suis levée le matin et j'ai dit, c'est le jour. C'est le jour, je ne peux plus. Parce qu'il a tapé au volet, il m'avait pas laissé dormir. Il m'enfonçait petit à petit, quoi. Je voyais pas d'issue. Donc, je me suis pas levée. Je me suis levée pour prendre mes médicaments et... Pourtant, je suis très croyante, mais je voyais aucune issue autre que celle-ci. Il a appelé les pompiers et je suis restée en soins continus du 3 au 11 septembre 24.
Et personne à l'hôpital est venu vous voir en disant « Mais pourquoi vous avez pris tous ces cachets ?» ou en essayant de se renseigner un peu sur votre situation personnelle. Ça aurait pu être un moment aussi de porte de sortie.
C'est ce qui s'est passé. Du personnel soignant très agréable... Très compréhensif. Ici, ils sont venus, ils m'ont accompagné, ils m'ont demandé ce qui se passait. Bien sûr que là, j'avais la parole. Donc, Je leur ai dit, j'aimerais, si c'était possible, voir une assistante sociale. Elle est venue et elle m'a posé des questions. Elle m'a dit qu'il allait y avoir un dépôt auprès du procureur de la République, de tout ce que je leur avais dit, quoi. Et je voulais absolument récupérer quelques affaires. Donc, ils m'ont autorisé à rentrer à la maison. Ça a été de pire en pire, là. La dame de la poste m'a dit il faut pas rester comme ça, ça fait un moment que je vous vois. Il faut aller dans une association, il faut. Elle m'a donné le nom d'une association. Et la semaine d'après, ben, elles étaient là. Des chouettes filles, heureusement.
Rose, comme Émilie, ont été aidées par une toute petite association ardéchoise baptisée Cultivons la confiance. Elle a été créée par trois femmes qui ont repéré le manque cruel de places d'hébergement pour les victimes de violences et leurs enfants en milieu rural. Toutes les trois ont voulu aider avec leur énergie et la bonne volonté de celles et ceux qu'elles réussissent à convaincre, des bénévoles qui proposent un hébergement d'urgence citoyen en ouvrant la porte de leur maison pour quelques nuits ou plusieurs semaines. Ariane Grissel est allée toquer chez l'une des fondatrices de cette généreuse association d'entraide.
Interception sur France Inter.
Je m'appelle Astrid Noquet, de l'association Cultivons la confiance. C'est une asso qui a été créée en 2019, et l'idée c'est d'être un support en fait, d'abord d'hébergement, donc déjà pour habiter en dehors du lieu de violence, et puis à partir de là, commencer à reconstruire, quoi. Donc nous on a un numéro de téléphone, Cultivons la confiance, qu'on diffuse un peu partout par des petites affichettes avec notre numéro à attraper. Et puis, on est en lien avec les partenaires aussi, sociaux du secteur. Donc, les centres médico-sociaux, les infirmières, infirmiers, les sages-femmes, les médecins. Voilà, on commence à être reconnus pour notre travail dans le secteur. Et donc, les femmes prennent connaissance de notre numéro et de nos actions, soit par bouche à oreille, soit sur conseil de quelqu'un qui leur parle de l'asso.
Combien est-ce qu'il y a de familles accueillantes dans ce réseau ?
Actuellement, il y a 5 familles accueillantes. On n'accueille qu'une femme subissant des violences avec ou sans ses enfants à la fois. D'une part parce que nous, les accompagnantes, on n'a pas toujours la dispo et on a envie de faire quelque chose de qualitatif. Et puis, comme ça, ça nous permet, au niveau des familles accueillantes, s'il y a besoin aussi que la famille change, parce qu'il y a moins de disponibilité dans la famille accueillante, parce qu'il y a une mésentente, ça peut arriver, alors c'est jamais arrivé pour le moment. Enfin, en tout cas, qui n'a pas de dispo, ça nous permet de tourner. Et puis, en cas de repérage de l'auteur ou l'autrice de violence, de pouvoir remettre la famille en sécurité, la famille accueillie.
Vous savez combien de femmes vous avez accueillies en 6 ans ?
Oui, il faut que je regarde le tableau des chiffres. Je cherche. Il y en a. Donc, on a en 2021 8 femmes, 8 enfants. Pendant 77 jours. Après, il y a celle à laquelle on n'a pas pu répondre. En 2022, 6 femmes et 6 enfants pendant 51 jours. En 2023, 4 femmes et 1 enfant pendant 24 jours. Et en 2024, 2 femmes et 2 enfants pendant 49 jours. Donc une vingtaine de femmes qu'on a pu héberger. Voilà.
Ces gens-là sont du genre très beau parleur, ah, la guicheur, l'allumeur, le séducteur. T'auras beau être en train de chialer depuis des heures, monsieur te prêtera des erreurs, lui qui n'en fait jamais d'ailleurs. Tout se passe tout doucement dans ses murmures, le serpent, et après la colère, il vous jure que ça c'est l'amour. l'amour ça rend fou, il en est sûr. Oui, ça c'est l'amour ça rend fou, il en est sûr.
On est en train de s'éloigner de la vallée de l'Eyrieux sur des routes très étroites. Enlacées, c'est très vert, beaucoup d'arbres, mais pas beaucoup d'habitations. Et on se rend compte à quel point ça peut être difficile parfois de trouver un refuge en cas d'urgence. Et on va justement voir un couple qui accueille bénévolement des femmes qui ont besoin d'aide. Ce sont des personnes qui sont disponibles à tout moment, joignables par l'association Cultivons la Confiance, et qui sont donc prêtes à accueillir les femmes en danger parce qu'elles veulent fuir leur conjoint ou leur mari, et les accueillent de quelques jours à quelques semaines.
Doucement,
les deux, doucement, tout le monde. Ah, le chien.
Allez, à la
maison.
Bonjour.
Bonjour.
Ariane, enchantée.
François. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir.
Avec plaisir. Allez, viens, viens. Viens, viens. Ça passe. Là.
Je m'appelle Martine.
François, voilà. Ben, nous, on nous téléphone, on nous dit ben, « ce soir, il y a une femme qui a besoin d'un lieu, vous êtes libre ?» On dit « oui ou non, hein. Voilà, ça dépend les fois. Je pense qu'on propose un cadre sympa, une vie de famille tranquille. Par contre, les femmes qu'on accueille, on ne sait pas ce qu'elles ont. Et moi, je ne veux pas savoir. On
Pourquoi
accueille.
Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas savoir ?
Ben, si la dame veut parler, c'est bien, mais ce n'est pas notre boulot. Nous, on accueille.
Voilà, nous, surtout la sécurité d'un cadre. Moi, si les personnes le souhaitent, on va marcher, on va établir une vie saine quelque part. Et la parole est de leur côté. Moi, je ne poserai jamais de questions. Et au contraire, je pense que quelque part, c'est peut-être bien de pouvoir décrocher un moment de sa propre histoire. Chaque fois, c'est un peu le retour qu'on a eu de chacune de ces femmes. C'est que quelque part, elles sont assez surprises par le type de relation qu'on peut avoir. Parce que chez nous, c'est souvent François qui fait à manger, c'est François qui fait les courses. Moi, je fais ma vie, je sors quand même pas mal. Et tout ça se passe bien, quoi. Et alors, par exemple, la dernière personne qu'on a eue, « Ah, ben François, il fait les courses !»« Ah ben oui, François, il fait les courses !» C'est un retour qui est pour nous et quelque part un peu assez gratifiant finalement, quoi.
Est-ce que vous pouvez me montrer où vous les hébergez, comment ça se passe ?
Oui, bien sûr.
Oui. On va voir ?
Allez. Une grande pièce qui est conçue un peu comme un dortoir, qui est équipée avec une salle d'eau et un WC, ce qui est bien. Du coup, ça donne beaucoup plus d'autonomie, pas de cuisine par contre. Il y a plusieurs lits qui permettent d'accueillir des familles de taille variable.
Allez, on redescend.
Ces femmes, et donc parfois leurs enfants, elles fuient un environnement violent. Est-ce que ça vous a fait réfléchir avant de vous lancer ?
C'était assez rassurant pour nous du fait que l'association, on sentait que c'était très pensé. On a eu par exemple la visite successivement deux fois des gendarmes du secteur qui viennent voir et on a un numéro d'urgence en fait. On sait qu'on peut joindre ou quelqu'un de l'asso, une des trois filles, ou la gendarmette elle-même. Ça sécurise quand même beaucoup.
Quand on accueille, on y pense toujours parce que on ne sait pas comment va réagir l'homme. Est-ce qu'il va vouloir récupérer sa femme à tout prix ? Est-ce qu'il va se renseigner pour savoir où aller ? Est-ce qu'il va venir ici de façon violente ?
Justement, les gendarmes, quand ils viennent, est-ce qu'ils vous en parlent un peu de ça ? Est-ce qu'ils vous forment un peu à ça ?
Oui, on a eu une formation avec une des gendarmes qui s'occupait de ça, où elle nous a expliqué comment ça arrive, les violences, comment l'emprise se fait. Voilà, on a eu ce type de formation. Et puis, voilà, on a quand même un numéro de téléphone, au cas où. Bon, on ne l'a jamais utilisé, hein, mais on ne sait pas.
Dans ces accueils, est-ce qu'il y a une rencontre particulière qui vous a marqué ?
Franchement, tout elle marque. Hein. C'est très différent. entre une personne qui est complètement abattue. La première, elle était complètement abattue, pleurait tous les jours. D'autres, c'est très dynamique. Au contraire, on sent que la personne, elle a envie de faire quelque chose, s'en sortir. Voilà. À mon avis, les liens, obligatoirement, ils se nouent. Après, est-ce qu'on les suit, ça, c'est un autre problème. Chacun a sa vie, ses soucis, voilà, c'est difficile. Mais quand même, un suivi, mais pas un lien d'amitié, quoi.
Moi, je suis toujours quand même assez admirative d'imaginer la situation de ces femmes qui, du jour au lendemain, quittent souvent leur domicile quasiment une main devant, une main derrière, quoi. Je trouve qu'il faut beaucoup de courage.
Au-delà des initiatives de particuliers menées à l'échelle locale, il existe bien sûr des organisations nationales. On a rendez-vous avec la représentante de l'une d'entre elles.
Voilà, c'est là.
Bonjour.
Merci de me recevoir.
Vous en prie.
Je ne sais pas où on se met, je rentre, mais...
Allez-y.
Clémence Pajot, directrice générale de la Fédération nationale des centres d'information sur les droits des femmes et des familles. On anime des permanences sur l'accès aux droits dans 65 maisons France Service. Et dans certaines d'entre elles, on anime d'ailleurs des permanences vraiment dédiées aux violences faites aux femmes. On intervient aussi à travers des dispositifs itinérants comme des bus itinérants, par exemple, qui offrent des espaces d'information. Nos vannes y vont sur les marchés, par exemple, dans les foires, dans des festivals. Et c'est un moyen extrêmement efficace pour aller au-devant des publics. C'est intéressant d'ailleurs de noter que parfois, certaines femmes s'adressent aux animatrices de nos vannes en disant « c'est la première fois ». Des femmes âgées, par exemple, qui disent « c'est la première fois que je parle des violences que j'ai subies dans l'enfance ». Donc vous voyez cet enjeu d'aller vraiment au-devant des publics. Et on s'adapte, hein, par exemple en Guyane, c'est sur des pirogues d'accès aux droits qui nous permettent d'aller au-devant des publics qui sont très très éloignés des centres urbains.
Et alors que sait-on ou que savez-vous des retours que vous avez des spécificités liées au milieu rural ?
On sait par exemple que 21% des femmes salariées qui vivent dans la ruralité sont en contrat précaire contre 13% au milieu urbain. Elles sont davantage donc dépendantes économiquement souvent de leurs conjoints, ce qui rend plus difficile encore la séparation. Et puis, la proximité sociale fait que, parfois, les agresseurs sont très bien insérés socialement, ce qui rend plus difficile le fait de dénoncer les violences. C'est difficile d'aller à la gendarmerie quand on sait que notre mari joue au foot avec les gendarmes tous les week-ends, par exemple. Et puis, il y a la question de l'isolement géographique, avec la problématique des mobilités qui est exacerbée dans les zones rurales. Dans la ruralité, je crois que 80% des mobilités se font à travers la voiture individuelle. Or, une femme sur cinq, 20% des femmes n'ont pas le permis, par exemple. Donc elles sont très dépendantes en milieu rural de leur conjoint. Moi, je parlerai en dernier lieu aussi de la faible offre en matière de santé, hein, puisque c'est souvent aussi aux professionnels de santé que les femmes victimes de violences osent parler, parfois pour la première fois. Et le fait qu'on ait des déserts médicaux, bien évidemment, ça ne favorise pas non plus la dénonciation des violences. Et on est finalement un peu face à un paradoxe parce que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'un tiers des Françaises vivent dans la ruralité. Or, on a 47% des féminicides qui sont commis sur des femmes vivant dans la ruralité. Donc on voit bien là, à travers ces chiffres terribles, que finalement ce sont les femmes issues des territoires ruraux qui sont davantage et plus gravement encore impactées par les violences conjugales.
Quand les services publics font défaut à la campagne, que les médecins ferment leur cabinet, il reste les gendarmes, rempart essentiel dans la lutte contre les violences intrafamiliales en milieu rural. Les élus, eux aussi, peuvent avoir un rôle déterminant pour repérer ces violences et tendre la main aux administrés qui en sont victimes. Nous partons maintenant dans l'Yonne, à Rozoy, 1000 habitants.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
Bonjour madame, on vient pour France Inter, on a rendez-vous avec madame le maire.
Oui, je vous laisse monter à l'étage, c'est la porte accès interdit. Dominique Chapuis, maire de Rozoy, président des maires ruraux de Lyon et vice-président des maires ruraux de France, en charge plus particulièrement l'élu rural relais égalité. En fait, nous, on est parti de l'idée qu'il fallait qu'on trouve un biais pour accompagner ces personnes un peu isolées dans les souffrances et les violences qu'elles peuvent rencontrer. Donc, dans un conseil municipal, on passe une délibération. Un élu lève le doigt et dit « Ben voilà, moi je veux bien être élu rural relais égalité ». Ça permet d'avoir quelqu'un repéré par les habitants et qui sait trouver une écoute adaptée en fait aux problèmes qu'il rencontre.
Quand vous dites qu'il y a des spécificités à la ruralité, vous pensez à quoi ? Quelles sont les différences par rapport à la ville ?
Alors la première qui remonte souvent... C'est mon voisin va voir si je vais à la gendarmerie, si je vais à la mairie, qu'est-ce qu'on va penser de moi. Souvent, on a remarqué quand même que sous le fil terrifiant du contrôle coercitif, qu'on isole les personnes, en général des femmes, dans un endroit très éloigné, une petite maison à la campagne, viens ma chérie, on va être bien. Et du coup, petit à petit, on se rend compte que la personne est de plus en plus isolée, arrête son travail, n'a plus de véhicule. Voilà, ça c'est un des côtés négatifs de cet aspect-là, mais il y en a d'autres très positifs, c'est effectivement la vie des associations, les élus de la République que nous sommes, qui sommes là aussi pour accompagner les gens, pour voir si une situation nous inquiète, on a quand même obligation de signaler, on a tous des référents gendarmes par commune, avec qui nous pouvons dialoguer. On a des procureurs qui nous donnent leur mail direct pour qu'on puisse signaler toute situation. Et des participations citoyennes avec des habitants qui nous permettent aussi d'avancer sur certains dossiers. Là, il y a quelques temps, par exemple, on avait une situation un peu délicate, un couple de personnes âgées avec des violences assez fortes. Bon, ben, l'air de rien, avec la participation citoyenne, on envoyait toujours quelqu'un promener son chien, parce qu'on ne rentre pas chez les gens, bien évidemment, mais... Et la personne, j'ai fini par réussir à la contacter, lui dire j'étais là. Elle a mis 6 mois, mais elle m'appelait régulièrement, et moi, mon rôle, c'était de lui dire, ben, je suis là, c'est vous. C'est vous, c'est votre démarche. Et ça a fini par aboutir. 6 mois, c'est peu, c'était très bien. Nous, ce que nous pouvons apporter, c'est pas... Parce qu'il y a des collègues qui me disent, c'est de la dénonciation. Non, surtout pas, ça m'hérisse le poil. C'est de la protection, c'est mon devoir, c'est normal. Et aucun jugement de notre part. Hein. La première des bases, c'est que nous ne sommes pas là pour juger. Encore une fois, il n'y a pas une situation qui ressemble à une autre, donc il faut toujours s'adapter. On a eu, par exemple, une formation très intéressante à l'école de gendarmerie de Dijon, où les formateurs faisaient un jeu de rôle et nous montraient quelqu'un qui vient en mairie et puis qui l'air de rien, dit « Ah bah oui, puis ah bah, peut-être que mon mari, il va pas être content si je ramène pas ce papier. » Donc le maire qui était là par hasard parce que la mairie en plus était fermée, lui répond « Bon bah venez, je vais vous le faire. » Et l'air de rien, engage la conversation. Après, il y a des outils. Hein. On peut discrètement donner un violentomètre. Alors le violentomètre, donc c'est la ville de Paris qui a créé cela. C'est un petit marque-page on le donne discrètement. Donc
c'est gradué. En fait, c'est une graduation et au fur et à mesure des situations, plus on va dans le rouge, plus la situation est voilà. Considérée comme dangereuse.
Alors il y a quelques petits outils comme ça et notamment on a aussi, et là on en a beaucoup distribué, un bouton qui s'appelle le bouton Mon Shérif. J'ai passé convention pour les maires ruraux de France avec la créatrice qui s'appelle Dominique Brugy. Et nous pouvons acheter ce bouton qui est tout petit et qui peut être caché dans une poche, dans un bijou et qui permet d'alerter en cas de violence 5 personnes qui font le nécessaire. Ça vous géolocalise, ça enregistre, ça peut faire sonner une alarme. Par exemple, il y a quelques temps, dans une commune voisine, dans un supermarché, le mari qui n'avait pas le droit d'approcher son ex-femme l'a bousculé dans le supermarché. Il lui a dit « Je t'attends sur le parking ». Elle avait ce bouton. À la caisse, elle a fait sonner. Du coup, les vigiles sont venus comme si elle avait volé quelque chose. Elle leur a dit « Emmenez-moi ». Donc, ils l'ont emmenée. Et dans le bureau, elle a pu expliquer pourquoi elle a fait sonner cela. Et puis, les gendarmes sont venus cueillir l'ex-mari sur le parking. C'est des petites choses, des petites protections. Donc moi mon but et celle de toute mon équipe et tous mes collègues des maires ruraux de France, c'est de trouver des petites choses comme ça, concrètes, hein, qui filent le coup de main. Alors peut-être pas à tout le monde, mais il suffit que ça sauve une ou deux vies et je serai ravie.
Veuillez patienter quelques instants, nous traitons votre appel.
Voilà, on entre dans la gendarmerie de Vitry-en-Artois, près d'Arras, puisque les gendarmes ont un rôle important à jouer dans la prise en charge des victimes de violences conjugales en milieu rural.
La gendarmerie de Vitry, le gendarme Guelton, à qui ai-je l'honneur ?
Oui, bonjour, c'est France Inter. On a rendez-vous.
Bonjour, j'arrive aux nouvelles.
Merci.
Donc, je suis le capitaine Labie, adjoint au commandant de compagnie à Arras. Donc, on est ici dans l'accueil de la brigade de Vitry. Donc, la personne se présente au portail, elle sonne, on lui ouvre, elle entre. Donc, le militaire prend son audition ici. Et après, une fois que l'audition est prise, il fait appel au groupe de lutte des violences intrafamiliales qui récupère le dossier et qui, eux, le traitent dans l'urgence, puisque en moyenne, on est sur 48-72 heures. Quand c'est vraiment urgent.
On est en milieu rural, il y a de la chasse, donc des armes.
Maintenant, on a le fichier qui permet de vérifier si les armes sont déclarées et qui nous renseigne, nous, déjà, effectivement, sur la présence ou non d'armes au domicile.
Oui, il y en a qui ne sont pas soumises non plus. Oui,
voilà.
Les armes. C'est encore une idée là, par exemple, ma dernière garde à vue sur le secteur de Vimy. Monsieur avait des armes, était chasseur, donc madame nous dit il y a deux armes au domicile, donc on a été les récupérer. Bon, finalement, il n'y avait pas deux armes, mais il y en avait six, plus une grande caisse de munitions. Les deux armes-là, il n'y a pas eu de menace, il n'a jamais utilisé contre madame, ça a été restitué sur décision du procureur de la République, et les quatre autres armes ont été détruites. Bon, bah, je suis l'adjudante Legrand-Émilie, donc rattachée à la brigade de Beaumet-les-Loges et détachée au gel vif Arras depuis bien presque deux ans. Donc c'est le groupe d'enquête et de lutte contre les violences intrafamiliales qui a été créé maintenant il y a 3-4 ans au sein de la compagnie d'Arras.
Est-ce que vous diriez que la majorité des personnes viennent d'elles-mêmes porter plainte ou est-ce que c'est en général à vous d'aller vers elles ?
Alors celles qui viennent déposer plainte, je pense que la plupart ne sont plus déjà avec l'auteur. La majorité des cas, je pense qu'elles sont déjà séparées et elles viennent déposer plainte a posteriori. Après, celles qui sont encore en couple et qui vivent des violences conjugales, là, ça sera peut-être plus un appel au 17 quand il y aura eu un fait physique immédiat, donc l'intervention des collègues au domicile.
Alors, ces femmes ont besoin d'être accompagnées et pas que sur le plan de la sécurité. C'est là que vous intervenez. Eva Dufay, je me tourne vers vous. Vous n'êtes pas gendarme, vous êtes ce qu'on appelle une intervenante sociale en gendarmerie.
On est vraiment un maillon de la chaîne entre le milieu social et le milieu de la gendarmerie. Et donc nous, on prend contact avec la victime. On lui propose une rencontre donc soit en gendarmerie, soit à son domicile, en lieu neutre. Moi, ça m'est déjà arrivé en plein milieu d'un parc public, sur une table de pique-nique, de rencontrer la victime. Mais elle se sentait là bien pour pouvoir échanger sur la situation. Donc on écoute beaucoup. On n'a pas de visée thérapeutique, c'est vraiment pour pouvoir évaluer les besoins de la victime et ensuite l'orienter vers tout le maillage territorial qu'on a au niveau des partenaires extérieurs. Tout ce qui va être France Victime pour l'accompagnement des victimes, les centres d'information du droit des femmes et des familles, l'accueil de jour, le groupe de lutte contre les violences intrafamiliales et les gendarmes sont des partenaires avec lesquels on travaille tous les jours. Il va y avoir les associations, les Restos du Cœur, enfin voilà, tout le maillage territorial autour. Des fois, ça va être de retrouver un logement. Des fois, il y a des questions aussi liées à la garde de l'enfant. Parce que du coup, elle passe le cap de déposer plainte. Et ensuite, bah, souvent, quand il n'y a pas ce dépôt de plainte, souvent, elle dit « Bah non, mais je ne veux pas parce que sinon, je vais devoir quitter le logement et je vais devoir partir 30 km plus loin. Je ne pourrai pas remettre les enfants. Il faut que je sorte les enfants de l'école. » Alors que bah, ils sont stables dans cette école. Ils y sont depuis X années. Et souvent, des fois, c'est un frein, en fait, l'école des enfants parce que... Bah, pour elles, ça paraît compliqué de sortir leur enfant alors que l'école, c'est ce qui les rassure et ils s'y sentent bien. Et du coup, tout chambouler, alors changer de logement, changer d'école, des fois, c'est un frein. Voilà, c'est déjà arrivé dans des dossiers que, du coup, l'auteur ne pouvait pas... Enfin, ça rassurait madame parce qu'il avait une interdiction d'une commune où elle habitait. Et du coup, les enfants, comme ils étaient scolarisés là, bah, elle savait qu'elle pouvait les amener à l'école... sans difficulté, parce que monsieur était interdit de cette commune, donc...
On l'a entendu, parfois, les enfants sont un frein au départ, mais ils peuvent aussi représenter le déclic. C'est en tout cas pour sauver son fils d'un milieu de plus en plus violent que Laura a décidé de quitter son conjoint il y a quelques années.
Donc, je m'appelle Laura, j'ai 35 ans. Ça fait un peu plus de 2 ans que je suis ici. J'ai été victime de violence de la part du père de mon fils. Voilà. Par exemple, il m'attrape par les cheveux parce qu'il y a quelque chose qui lui convient pas. Ça arrive qu'il m'insulte. Et un jour, j'étais au bord de la rivière pendant que mon fils était à l'école. Et ce jour-là, donc j'étais au téléphone et puis il y a un homme qui arrive, qui s'installe un peu plus loin sur la plage. Donc moi, toujours en train de téléphoner, et là, d'un coup, je le vois arriver, très en colère. Sur le coup, j'ai pas compris ce qui se passait. Il me dit « Oui, je t'ai vu, t'étais dans les bras de cet homme, je t'ai vu te rhabiller, il était dans une paranoïa. » Je comprenais pas ce qu'il me disait, et puis il est reparti, très en colère, en me disant « Tu fais tes affaires, tu t'en vas. » Et donc là, je me suis dit « Bon, c'est sur le coup de la colère, mais il m'a demandé de partir, donc en fait, faut que je parte. » Donc j'ai récupéré mon fils à l'école, j'ai fait 2-3 sacs, c'était très stressant parce que j'avais peur qu'il arrive à ce moment-là. Et au moment où je suis partie, c'était le grand soulagement.
Après toutes ces années, qu'est-ce qui a fait que finalement ça a commencé à germer dans votre esprit cette idée de partir ?
Parce que mon fils commençait à reproduire des comportements de son père. J'avais envie de lui montrer que c'était pas normal, en fait, ce qui se passait. On m'a parlé de l'association, et donc, du coup, en fait, tout s'est enchaîné. Le but, c'était que je dépose plainte et que je parte tout de suite dans cette famille. Et donc, je suis arrivée dans cette famille à 23h, où j'ai passé quelques jours. Et ça a permis aussi, quelque part, même si après, le chemin est toujours long, en fait... Mais ça a permis de voir comment fonctionne une famille normale. Bah, c'était le début d'un déclic. Cette ancienne voisine qui m'a un peu forcé la main pour que j'aille porter plainte, pour que j'aille dans cette association, c'est un peu grâce à elle que j'en suis là, en fait. C'est le début de mon parcours, c'est le début de la fin des violences. En fait, moi, je suis fière de quelque chose, c'est d'avoir brisé la violence, le cercle de la violence qu'il y avait dans ma famille, parce que c'est-à-dire que ma mère a été maltraitée par son père, donc mon grand-père était violent. Mon père, je ne veux pas dire qu'il a été violent physiquement, mais toujours des paroles très dévalorisantes, toujours très insultants, et puis un côté très très autoritaire et puis alcoolique. Et j'ai vraiment reproduit ce couple en fait parental. Et en fait, d'être partie, en fait, pour moi, j'ai vraiment... c'est bon, quoi. J'ai brisé ça et et dans les générations futures, du coup, il n'y en aura plus normalement.
Violence conjugale, les entendez-vous dans nos campagnes ? Un reportage signé Ariane Grissel. Accompagné à la prise de son par Olivia Branger et Hélène Langlois. Réalisation Gaëtan Colli, attaché de production Martine Messonnier, mixage Julien Douminc. Pour réécouter tous les grands reportages de notre magazine de la rédaction, n'hésitez pas à vous abonner au podcast d'Interception sur l'appli Radio France.